RFI, grand reportage. Amélie Tullet.
Bonjour à tous. Le 13 septembre 1993, dans les jardins de la Maison Blanche, sous le regard de Bill Clinton, Shimon Peres pour les Israéliens et Mahmoud Abbas pour les Palestiniens signent les accords d'Oslo. Leurs dirigeants Yitzhak Rabin et Yasser Arafat échangent une poignée de mains historiques. Ce jour, c'était il y a 25 ans, tout juste, devait marquer alors une avancée vers la paix entre les deux parties. Dans la foulée, environ 300 000 Palestiniens vivant en exil reviennent dans les territoires, des femmes, des hommes qui s'étaient battus pour la cause palestinienne. Ils espéraient participer à leur retour à la construction de leur futur État. 25 ans plus tard, quel regard portent-ils sur ces accords d'Oslo? Quel est leur bilan du processus de paix? 25 ans après Oslo, les rapatriés palestiniens entre joie du retour et désenchantement. C'est un grand reportage de Guilhem Delteil.
Sa famille habitait en Galilée, près de la ville de Safed. Mais à la création de l'État d'Israël en 1948, elle est partie au Liban. Née 14 ans plus tard, Walid Al-Awad a conservé l'attachement à la terre d'origine de sa famille. Et il n'a que 15 ans lorsqu'il décide de prendre les armes pour participer à ce qu'il appelle la libération de la Palestine. C'était en 1976.
C'était lors du siège du camp de Tel al-Zaatar. Il y a eu des appels pour venir défendre le camp. J'ai rejoint l'armée de libération de la Palestine. Le camp était encerclé par les Syriens et des milices libanaises durant la guerre civile. Ensuite, j'ai continué mon travail au sein de la résistance. J'allais participer aux batailles partout. J'ai participé à de nombreux stages militaires à l'étranger et j'ai aussi reçu une formation politique en URSS. On nous disait que nous étions là pour protéger la Palestine.
Walid Al-Awad est devenu capitaine au sein de l'armée de libération de la Palestine et il a adhéré au parti communiste.
On nous disait qu'on était là pour protéger la Palestine.
Mohamed Abou Zaitoun, lui, était un peu plus âgé quand il a rejoint les troupes combattantes palestiniennes. Né près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, il s'est enrôlé dans un premier temps dans l'armée jordanienne après ses études. Puis, se sentant trahi par la Jordanie, il a fait défection pour rejoindre les troupes de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, en 1968.
Mais pourtant, on recevait des ordres pour empêcher les combattants palestiniens de s'approcher du Jourdain. Donc, les ordres étaient contradictoires. Les soldats de l'armée jordanienne, à l'époque, savaient très bien ce qui se passait. Ils étaient prêts à accepter les coups qui venaient du côté israélien après les attaques des combattants palestiniens. Et ils l'acceptaient parfaitement. Mais à la radio et dans les médias locaux, il disait que les combattants palestiniens nuisaient à l'armée jordanienne.
Mohamed Abou Zaitoun a alors déserté l'armée jordanienne avec un groupe d'autres soldats d'origine palestinienne. Considéré comme un traître au pays, au roi et au peuple, accusé de collaborer avec l'ennemi, cet officier a rejoint le Fatah de Yasser Arafat, un renfort pour l'organisation qui s'est révélé précieux dans le domaine de l'artillerie. Une unité d'élite a été créée.
C'était une question de nombre. Les soldats qui ont quitté l'armée jordanienne pour rejoindre l'OLP venaient de différentes divisions. Et c'est de l'artillerie que nous avions le plus de soldats hautement qualifiés. On en avait peut-être 8 de telle division ou 5 de telle autre, mais nous en avions une vingtaine de l'artillerie. Tous têtes de classe, tous officiers et tous bien entraînés. C'est comme ça que ça s'est construit.
Dans le salon de sa maison dans son village natal, Mohamed Abou Zaitoun a une photo de lui aux côtés de Yasser Arafat, car au fil des ans, il était devenu un proche collaborateur du chef historique de la lutte palestinienne.
De 1975 à août 1978, Yasser Arafat passait avec moi 10 à 18 heures par jour. Nous étions dans les mêmes bâtiments et j'étais en charge de certaines tâches qui dépendaient directement de lui.
Zainab El-Rounaimi a grandi dans la bande de Gaza. Elle avait 14 ans lorsque les Israéliens ont pris le contrôle de ce territoire à l'issue de la guerre des six jours.
J'ai commencé à résister quand j'avais 15 ans. C'était une résistance pacifique, pas armée. À cette époque, les Israéliens venaient d'entrer à Gaza. Mais j'avais été formée au maniement des armes et s'ils m'avaient demandé de me battre les armes à la main, j'étais prête. Comme en 1982, lorsque les Israéliens ont encerclé Beyrouth. J'avais mis l'uniforme militaire et j'étais prête à me battre.
Arrêtée par les Israéliens une première fois en 1969, puis à nouveau en 1975, elle a finalement été bannie des territoires palestiniens de 1976 à 1994. Elle a alors vécu en Égypte, puis au Liban. Membre du Fatah tout d'abord, elle a finalement rejoint une formation communiste et au début des années 90, elle pressentait un changement à venir.
La situation après l'invasion du Koweït par l'Irak avait changé. Nous avons compris que cela allait modifier le contexte dans les pays arabes. Par ailleurs, en 1982, à Beyrouth, Israël avait battu la résistance palestinienne. Les conséquences allaient se faire sentir dans les années suivantes. Les soutiens de l'OLP et de la révolution palestinienne faisaient défection les uns après les autres. Nous attendions un grand changement.
Devant 3000 invités triés sur le volet et des centaines de millions de téléspectateurs sur ces pelouses de la Maison Blanche, trois hommes, pour une image que beaucoup croyaient invraisemblable et qui pourtant aujourd'hui, à 17h13, est entrée dans le livre d'images de l'histoire au chapitre Espoir.
Le processus de paix avait commencé en octobre 91 à Madrid. Et si les négociations dans la capitale norvégienne se sont déroulées en secret, Walid Al-Awad, lui, était informé de l'évolution des tractations.
Je dois dire que le Parti communiste avait été mis au courant de ces négociations. Pour une raison simple, un membre du comité central du parti, Hassan Asfour, était dans l'équipe de négociateurs. Il transmettait les informations au parti constamment. Et en raison des bonnes relations entre Yasser Arafat et Bachir al-Barghouti, chef de notre parti, il lui a donné une première ébauche de l'accord. Nous en avons débattu et nous l'avons soutenu. Nous avons jugé qu'il y avait des manques dans cet accord, mais qu'il ne mettrait pas un terme à notre lutte nationale pour atteindre nos buts. Cela ouvrait la voie.
Oslo, un accord pragmatique, c'est aussi l'avis de Nabil Chat. Cet éminent membre du Fatah de Yasser Arafat a longtemps défendu l'idée d'un seul État pour deux peuples. Mais au début des années 90, il est devenu l'un des principaux négociateurs palestiniens.
Quand Yasser Arafat a adopté la solution à deux États et qu'on a déclaré que nous abandonnions l'idée d'un État démocratique palestinien, j'ai démissionné du Fatah. Je suis immédiatement parti de Beyrouth et j'étais au Caire pendant 3 ans. Mais petit à petit, pour être pragmatique, j'ai compris qu'il fallait évoluer de la solution à un État vers la solution à deux États. Elle était acceptée par la plupart des pays et à l'époque par la majorité des Israéliens. C'est pour ça que j'ai dirigé les négociations à Washington et j'étais aux côtés d'Arafat et de Rabin lors de la signature des accords d'Oslo à la Maison Blanche.
Arafat, lui aussi, parlera durant son interlocution de paix, de jour historique. Mais il ne cessera durant toute cette intervention de rappeler au monde la nécessité d'une coopération internationale avec la Palestine.
Ces accords n'ont jamais fait l'unanimité chez les Palestiniens, y compris au sein du Fatah. En 1993, Mohamed Abou Zeitoun était moins proche du chef historique qu'il ne le fut. Il se remettait d'une attaque cérébrale en Jordanie, mais il a pu faire part de ses réticences à Yasser Arafat, pour lequel il garde une grande admiration.
En tant que militaire, j'avais l'habitude de dire à mes cadets, votre valeur vient des armes que vous avez. Tant que vous avez une arme, vous pouvez être efficace, vous pouvez faire quelque chose. Mais dès que vous n'avez plus d'armes, vous êtes moins efficace. Quand j'ai vu Yasser Arafat à Amman, je lui ai demandé si, en tant que chef de l'artillerie, après notre retour, j'aurais le droit d'actionner un canon pour marquer la rupture du jeûne pendant le Ramadan ou de tirer à un aéroport 21 salutations pour un visiteur. Et il m'a dit que ce ne serait pas possible.
Jéricho, ville 3 fois millénaire, redevient une capitale politique. Dans le désert de Judée, cette ville, dont les murs s'effondrèrent jadis sous le coup des trompettes, revient donc à la une de l'actualité internationale. Conséquence prévisible de l'accord intervenu le 13 septembre dernier, après 8 mois de difficiles négociations entre Israéliens et Palestiniens.
Les accords d'Oslo prévoyaient le retour de Palestiniens interdits de séjour dans les territoires contrôlés par Israël. Des listes avaient été établies par l'OLP, mais pour certains dont le nom figurait dans ces documents, de nouvelles tractations ont dû avoir lieu.
Pendant 2 ans après la signature des accords d'Oslo, j'ai été empêché de revenir à Gaza par Israël. Il y a eu finalement un accord entre Yasser Arafat et Shimon Peres pour tout un groupe. Les Israéliens nous ont finalement autorisés à venir à une session du Conseil national palestinien.
C'est finalement le 21 avril 1996, plus de 2 ans et demi après la signature des accords d'Oslo, que Walid al-Awad a pu arriver dans les territoires palestiniens.
Pour moi, c'était différent de ceux qui rentraient et qui allaient retrouver leur mère, leur père, leurs frères et sœurs. Moi, c'était le contraire. J'ai dit au revoir à ma mère et j'arrivais dans un endroit que je ne connaissais pas. Mais en même temps, j'étais très heureux. C'était comme une victoire d'arriver à rentrer en Palestine. Je suis revenu en passant le pont sur le Jourdain. J'ai été interrogé pendant 6 heures. Je suis tombé sur un capitaine des services de renseignement israélien. Il savait tout de moi. Et il m'a demandé ce que je pensais des accords. Je lui ai dit, je vous ai combattu et j'en suis fier. Mais je serai fier aussi de faire la paix avec vous. Et je reprendrai la lutte s'il n'y a pas de paix.
Mohamed Abou Zeitoun, lui, a obtenu une première autorisation temporaire de venir en Cisjordanie en 1995. Il y est arrivé le 7 mai, une journée également ancrée dans sa mémoire.
Quand je suis revenu, j'ai été accueilli comme un héros qui avait tout conquis. Il y avait une trentaine de voitures. Ils m'ont mis dans l'une d'entre elles et ils ont organisé une parade. J'étais très heureux. J'ai revu des gens que je n'avais pas vus depuis 28 ans. Nous avions une vieille maison dans le village. C'est là que je suis né. J'ai voyagé, j'ai dormi et mangé dans les meilleurs hôtels lorsque je travaillais avec Yasser Arafat au haut commandement. Mais cette nuit-là, où j'ai dormi dans cette vieille maison, dévorée par les moustiques, eh bien c'était la meilleure nuit de ma vie.
En revanche, Zeynab El-Rounaimi, elle redoutait le retour à Gaza. Mais elle a sauté le pas pour participer à la construction de l'État palestinien annoncé.
J'avais pu revenir en visite en 1993. J'avais pu voir l'évolution de la situation ici et j'ai constaté que les partis religieux étaient de plus en plus influents. Les gens étaient de moins en moins libres et cela ne me réjouissait pas. Je vivais en Syrie à ce moment-là, en 1994. Mais quand j'ai vu l'autorité palestinienne commencer à travailler et construire l'autorité nationale, je suis revenu.
L'OLP devrait donc quitter Tunis avec armes et bagages pour y installer son quartier général, ses ministères et gérer la vie des populations sous le contrôle d'une police palestinienne. Et il reste encore à discuter de l'autonomie des autres villes palestiniennes qui longent le Jourdain. En attendant cette arrivée tant annoncée, les prix de l'immobilier ont grimpé et il reste encore tout à faire pour y relancer l'économie.
Ces retours ont donné lieu à des scènes de liesse. Et pour les responsables politiques, les débuts étaient prometteurs. Mais petit à petit, l'espoir a cédé le pas à la désillusion, se souvient le communiste Walid al-Awad.
Je suis revenu en passant le pont sur le Jourdain. J'ai été interrogé pendant 6 heures. Je suis tombé sur un capitaine des services de renseignement israélien. Il savait tout de moi et il m'a demandé ce que je pensais des accords. Je lui ai dit, je vous ai combattu et j'en suis fier. Mais je serai fier aussi de faire la paix avec vous. Et je reprendrai la lutte s'il n'y a pas de paix. J'avais l'impression d'avoir planté un nouvel arbre et de le voir grandir. J'avais l'espoir de réaliser mon rêve. Je m'étais battu pour ce moment. Quand j'ai vu la construction de l'aéroport, l'arrivée des forces de sécurité internationales, j'avais le sentiment que nous étions en train d'irriguer cet arbre et qu'il se nourrissait de notre sang, de nos souffrances. De 1994 jusqu'en 2000, la construction de l'État palestinien avançait bien. Mais quand les Israéliens ont senti que les Palestiniens construisaient leur propre État, ils ont commencé à tout détruire. Ils sont entrés sur l'esplanade des mosquées. Ils savaient que cela créerait une explosion dans la région.
Et la déception a gagné jusqu'au sommet de la direction palestinienne, assure l'ancien soldat Mohamed Abou Zeitoun.
J'ai revu Yasser Arafat en 1998, c'était 5 ans après la signature des accords d'Oslo. Yasser Arafat avait réuni toute la direction de l'OLP, du haut commandement et les chefs de famille du gouvernorat de Naplouse. Nous nous sommes retrouvés dans une école. Il nous a dit qu'il avait le sentiment que c'était un nouveau Sykes-Picot et qu'il était déçu. Je savais que Yasser Arafat était déçu dès 1998.
Sykes-Picot, un accord secret conclu entre le Royaume-Uni et la France durant la Première Guerre mondiale. Malgré les promesses d'indépendance faites aux pays arabes, les deux pays se répartissaient leurs zones d'influence dans ce qui était l'Empire ottoman. 25 ans après Oslo, la direction palestinienne estime qu'une fois de plus, la promesse d'indépendance n'a pas été tenue et en impute la faute à Israël. Nabil Chat a été le premier chef de la diplomatie de l'autorité palestinienne. Il a été chargé de négocier les accords de mise en œuvre d'Oslo.
Ce que les Israéliens essaient de faire constamment, c'est de continuer à s'accaparer autant de terres et d'eau que possible de la Cisjordanie et rendre la solution à deux États vide de sens, impossible à réaliser. Dans le meilleur des cas, une autonomie dans les grandes villes palestiniennes qui sont difficiles à gérer. Mais les Israéliens ne sont pas intéressés par une solution à deux États.
Mais ce responsable politique, aujourd'hui conseiller de Mahmoud Abbas, assure qu'Oslo a tout de même permis des avancées.
La question d'Oslo, 25 ans plus tard, si vous voulez en faire un bilan, c'était un bon essai. C'était un essai de parvenir à une solution sur la base de deux États. Ça a aidé les Palestiniens sur certains aspects. Nous avons construit nos propres institutions qui peuvent devenir les institutions d'un État. Nous avons construit une économie indépendante, certes très soumise et restreinte par les Israéliens, mais il y a une économie indépendante. Et ces constructions ont permis à des milliers de Palestiniens de rentrer chez eux. Les expulsions par Israël ont cessé. Les Israéliens expulsaient les Palestiniens par centaines, par milliers chaque année. C'est fini. Mais aussi, grâce à Oslo, le monde reconnaît un État palestinien indépendant. Aujourd'hui, 138 pays reconnaissent un État palestinien.
Dans la population palestinienne, le soutien à la solution à deux États s'érode. Et si la direction actuelle veut conserver ce cadre de négociation, beaucoup estiment que le processus est désormais mort. Mohamed El-Sabag est le fils d'un des premiers membres de l'OLP. Né à l'étranger, il dit avoir réalisé un rêve en mettant les pieds dans la bande de Gaza en novembre 1994. Mais aujourd'hui, il est désabusé.
On avait un aéroport. On avait des choses qui disaient que nous sommes un pays. Maintenant, nous ne les avons plus. Nous ne sommes plus rien. Je ne crois pas qu'Oslo existe encore. Parce que des deux côtés, en Israël comme en Palestine, pas tout le monde, mais certaines personnes, ne voulaient pas continuer. Donc, ils ont tué Rabin et ils ont causé des troubles pour tuer Oslo. Et avec le temps, Oslo disparaîtra totalement.
Mohamed El-Sabag vit dans un appartement cossu dans un immeuble moderne de la ville de Gaza. Ce quadragénaire ne semble pas faire face à des difficultés financières, mais enfermé dans un territoire sous blocus depuis 11 ans, il rêve désormais de repartir. Il est trop difficile de vivre à Gaza, juge-t-il.
Puis vint enfin le discours du Premier ministre israélien. Un discours au caractère émotionnel fort, un discours émouvant même. Il commence par cette phrase, lourde de sens. Il n'a pas été facile pour un ancien soldat comme moi, pour un ancien combattant, d'arriver jusqu'ici, jusqu'à ce jour. Et puis vient ce mot plusieurs fois répété par le Premier ministre israélien.
Nous, qui avons lutté contre vous, les Palestiniens, nous vous disons aujourd'hui d'une voix claire et nette. Assez de sang, assez de guerre, assez.
Vingt-cinq ans après Oslo, les rapatriés palestiniens, entre joie du retour et désenchantement, un grand reportage de Guilhem Delteille, réalisation Pierre Chaffangeon.